Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dieu s'adresse à son peuple captif à Babylone et il a tenu sa promesse, il s'est laissé trouver. Nous pouvons aujourd'hui relire ces versets car cette promesse est aussi pour nous, pour chacun, pour chacune de nous. Pour que nous puissions le trouver, Dieu a envoyé son fils Jésus. Il est né parmi nous, il a vécu comme nous, il est mort. Enfin, il a vécu comme nous, il est mort. Dans son amour, Dieu l'a ressuscité des morts afin que nous croyions et que nous ayons la vie. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous invite à vous lever. Seigneur, tu nous offres ton amour, ta tendresse, ta douceur. Tu nous accueilles tels que nous sommes. Dans nos cœurs, il y a nos questions, nos doutes, nos haines, nos peurs. Dans nos cœurs, il y a nos joies, notre bonheur, nos convictions. Tels que nous sommes, nous voici ce matin. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, nous t'offrons nos questions, nos doutes, nos haines et nos peurs. Nous t'offrons nos joies, notre bonheur, nos convictions. Nous t'offrons tout ce qui nous habite, afin que puisse naître la paix. Seigneur, merci pour ta paix en nous. Merci pour ton amour qui nous transforme. Amen. Me voici, Seigneur Sauveur. Nous louons Dieu avec le psaume 118. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les humains. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Et je vous propose de chanter le psaume 33 dans vos recueils, le psaume 33, les strophes 1 et 2. Réjouis-toi, peuple fidèle. Vous trouverez ça à la page 56.
Acclame Dieu à pleine voix, la louange est saine et belle, l'âme est comme moi, Dieu est le
Prenez place. Alors, bienvenue dans ce temple. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, c'est-à-dire à peu près la totalité d'entre vous, il m'arrive d'avoir des quintes de toux. Alors, vous allez sans doute penser que je vais mourir là, ce qui serait pour un pasteur quand même du plus haut niveau, mais a priori non. Hein, je vais mourir bien sûr un jour, mais a priori pas de ça. Donc ne vous inquiétez pas, ça passe. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir ici, vous avez dans votre, dans le psautier, dans le cantique, dans le livre de cantique, une petite feuille qui vous donne ce qu'on appelle les spontanés, qui vous permettent de suivre, à quelques exceptions près, ce qui se passe au nom du culte. Ensuite, je sais que vous voulez garder des souvenirs, et en ce qui concerne les photos. Pour le bon déroulement du culte, je vous demande de ne pas en faire. On en fera juste au moment après les baptêmes, quand vous serez quand toute la famille, parce que pour ceux qui n'ont pas encore compris, il y a 4 baptêmes. Donc ça va faire tout à coup du monde devant. Une fois que tout le monde sera là, que les baptêmes auront été faits, bien sûr, vous pourrez prendre quelques photos, souvenirs à ce moment-là. Mais pour ne pas déranger la célébration, merci de vous abstenir ailleurs. Donc, bienvenue à la famille. Alors, je vais essayer d'aller dans l'ordre. De la famille de Hugo, Lenny, Mackenzie et Lewis. J'ai dit une erreur ? D'accord. Non, ce serait fâcheux. Donc, Mackenzie et Lewis sont les plus jeunes et sont des jumeaux. Voilà. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai ? Bon, bref. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà. Je vous invite à la prière. Lorsque les femmes arrivent au tombeau, elles s'interrogent. Qui roulera la pierre ? Elles arrivent et sont bouleversées. Le tombeau est ouvert. La pierre a été roulée. Seigneur notre Dieu, en nous demeurent des pierres trop lourdes à rouler. Des pierres de rancune, d'orgueil, de convoitise et d'incrédulité. Elles ferment le tombeau de nos blessures secrètes, les cavernes obscures de nos souffrances cachées. S'il est vrai qu'au matin de Pâques, la pierre a été roulée, viens maintenant ôter la pierre qui ferme notre cœur. Roule la pierre de nos tombeaux, que ta lumière transperce nos obscurités. Roule la pierre de notre maison, que ton souffle balaye nos inquiétudes et nos timidités. Roule la pierre de nos peurs, que notre esprit s'ouvre à la confiance et à la foi. Roule la pierre de notre indifférence, que notre cœur s'élargisse à l'accueil et à l'amour du prochain. Roule la pierre de nos enfermements, que notre marche nous conduise sur les chemins d'espérance. Roule la pierre de notre incrédulité, que la résurrection devienne la grande affaire de notre vie. Amen. Tel que je suis.
Tel que je suis, en rien à moi. Tire-moi à ton cœur, à tes
fesses. Frères et sœurs, la pierre a été roulée. La vie a vaincu la mort, le Christ a balayé le péché. La nuit laisse la place à l'aurore. Dieu nous accueille et nous pardonne en Jésus-Christ. Alléluia. À toi nos louanges. L'amour nous libère, l'amour a des exigences. Nous trouvons ces exigences dans le livre du Deutéronome. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel, tu dirais alors, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique ? Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Tu dirais alors, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique ? C'est une chose au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Amen. Pour qu'aujourd'hui je sois libre. Prenez place. Rémi, Claudine, vous avez demandé à ce que vos enfants reçoivent le baptême, Hugo, Lenny, Mackenzie et Lewis. L'Église, aujourd'hui, accueille votre désir avec joie. Mais avant cela, nous affirmons notre reconnaissance pour la vie que Dieu donne. Veuillez donc vous approcher.
De renaissance.
Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de la maternité et paternité. C'est une vocation si grande et si bénie, Seigneur. Nous oublions souvent combien tu nous fais confiance en déposant tes enfants si précieux entre nos mains. Aide-nous à toujours apprécier l'importance d'être mère et père. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants de la terre, ceux qui ont faim et ceux qui sont orphelins, et ceux que personne n'aime. Fais que les hommes les respectent, qu'ils nourrissent le pain et de tendresse pour qu'ils grandissent et puissent te servir librement, Seigneur. Sois l'expérience de nos enfants. Amen.
Nous confessons ensemble la foi chrétienne en disant tous ensemble donc le symbole des apôtres, vous le trouverez tout à la fin de votre recueil. Nous nous levons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez prendre place.
Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors, pour que les choses soient un peu plus visibles, on va le faire en deux temps. Donc, je vais d'abord inviter, bien sûr, les parents, avec Hugo et Lenny, ainsi que leurs parrains et marraines respectifs, c'est-à-dire Simon et Raphaël, Andrea et Michel. On va couper les parrains marraines, voilà, avec les enfants qui leur correspondent. Ça, voilà, que ce soit tout clair. Très bien. Donc, je ne sais pas d'attise, Hugo et
Lenny.
La Lenny.
Oui.
Ah oui, d'accord. Bon, Lenny, bonjour. Oui, d'accord. Lewis. Non, oui, Lenny. Ah, voilà. Lenny, je te baptise au nom du Père.
Hugo,
je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà.
Alors, je suis désolé. Hop.
Voilà. Voilà, Hugo. Hugo, Dieu te garde, le Fils te sauve, l'Esprit t'éclaire. Amen. Nous te recevons dans la famille des enfants de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ. Je t'ai appelé par ton nom, dit le Seigneur, tu es à moi.
Oui. D'accord.
Oui, Lenny là-bas.
Tiens, tu vas prendre l'eau et tu me la verseras dans ma main tout à l'heure, d'accord? Viens. Merci. Lève-toi. Merci. Lenny. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Père te garde, que le Fils te sauve, que l'Esprit t'éclaire. Nous te recevons dans la famille des enfants de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ. Tu appartiens désormais au Seigneur pour le servir tous les jours de ta vie. Amen. Alors j'invite maintenant Mackenzie et Lewis aussi, avec leurs parents marraines respectifs. On va se de tous côtés. Alors, je crois qu'il y en a un qui doit. Voilà, les parents, pour faire le tour. Avec un. Non. Bonjour. Hein. Tiens, tu veux venir apporter de l'eau?
Ah,
c'est là-bas.
Non,
ah, oui. Ah oui, vous êtes deux. Vous êtes deux côtés. Oui, oui. Voilà, venez. Tu verseras de l'autre. Alors, allez-y. Mackenzie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mackenzie, pour toi aussi cette parole est vraie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu laisses ton frère verser ?
Non.
Voilà, tu tiens bien,
c'est doux.
Voilà. Tu me verses un peu d'eau la main. Merci. C'est pour ça qu'on fait la chose. C'est pas grave, ça, c'est bon. Lewis, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lewis, pour toi, cette parole aussi est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous vous recevons
On va en pause. Oui. Adrien, non, je donc. Vas-y, pose-le. Voilà. Super. Alors, je vous invite à vous couper maintenant.
Parrain et marraine, devant cette assemblée qui est témoin et qui elle aussi s'engage, vous allez promettre d'accompagner Hugo, Lenny, Lewis et Mackenzie dans les étapes de leur vie.
Alors, ben,
une promesse?
Non.
Hop. C'est beau qui je ne sais pas qui est qui. Prenez le micro.
Juste le travail, enfin,
la première, que je fais pas voter à vous.
Nous promettons d'aider nos enfants à connaître Dieu comme notre Père, Jésus-Christ comme notre Seigneur. Et le Saint-Esprit, comme celui qui fait de nous des êtres. Nous promettons d'aimer notre enfant et.
Des enfants.
Des enfants.
Oui, mais vous les
appelez. Nous promettons d'aimer. Nos les enfants, de leur donner l'exemple d'une foi chrétienne, de nos soins et de nos prières. Nous promettons d'aider nos enfants à prier Dieu, à respecter son œuvre, à aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme elle, lui, comme eux.
Avec l'appui de l'Église, nous promettons d'aider nos enfants à grandir dans la foi.
Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, voici Hugo, Lenny, Mackenzie et Lewis. Par ce baptême, nous attestons qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont ici chez eux. Vous êtes leur famille spirituelle. Vous leur accorderez ainsi qu'à leur famille le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne les retiendra dans la communauté chrétienne. Mais s'ils viennent à s'en séparer, vous affirmerez qu'ils peuvent toujours y retrouver leur place. Vous serez ainsi pour eux les témoins de l'amour de Dieu. Ce sera notre joie qu'ils confessent un jour que Jésus-Christ est Seigneur. Nous prions. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Hugo, Lenny, Mackenzie et Lewis, qui viennent de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour eux et pour leur famille. Et en ce jour, nous voulons faire mémoire de Paul, le grand-père de ses enfants, et d'Emma, leur tante, tous deux décédés ces dernières années. Nous te remercions aussi pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton ami. Amen. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir, et si vous voulez faire une photo, c'est le moment.
Pour ce jour, j'ai retenu deux des lectures proposées par le lectionnaire. La première dans le livre des Actes des Apôtres,
et le second dans l'évangile de Jean. Avant, nous prions. Aide-nous, Seigneur, à ne plus chercher le Christ dans le tombeau vide. Au lendemain de Pâques, dissipe nos doutes, fais de nous des croyants. Aide-nous, Seigneur, à accueillir dans notre vie le Christ ressuscité. Éclaire notre route, fais de nous des vivants. Amen. J'invite les lecteurs, lectrices en l'occurrence.
En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, déclara « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus de Nazareth, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. »
Jean chapitre 10, nous lirons au verset 11 jusqu'au verset 18. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voici le commandement que j'ai reçu de mon Père.
Parle-moi. Cantique. Prenez place. Nous sommes en plein temps pascal et il est bon, durant ce temps, d'être, selon notre jargon, christocentrique, c'est-à-dire concentré sur la personne du Christ Jésus, même si nous le sommes souvent, même en dehors de cette période. Mais à Pâques, Pâques annonce aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne s'était jamais produit avant. Et Pâques nous oblige à une relecture de notre propre histoire selon une nouvelle lumière. C'est bien ce que propose ici Pierre à son auditoire. Ce que vous avez cru s'est révélé faux. La pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle, la pierre sur laquelle tout repose. Jésus, que vous avez fait crucifier, a été relevé par Dieu. Et c'est en son nom que nous guérissons. Ne vous en déplaise. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes invités à relire notre histoire à la lumière de la résurrection du Christ Jésus. La juxtaposition des textes bibliques, comme nous venons de le faire pour les deux extraits que nous venons d'entendre est toujours, toujours orienté. Ici, nous avons un parallèle cruel entre l'attitude des chefs religieux, obsédés par la conservation de leur autorité, et celle de Jésus, préoccupé par la sauvegarde de ceux qui lui sont confiés. Mais il y a un autre point commun. Ces deux passages nous interrogent sur nos propres motivations. Pourquoi faisons-nous les choses ? Bien sûr, on peut soupçonner un brin d'ironie chez Pierre lorsqu'il s'étonne de devoir se justifier d'avoir fait le bien. Nous sommes aujourd'hui interrogés pour avoir fait du bien à un infirme. Pierre, néanmoins, cherche moins à étaler ses motivations qu'à mettre en lumière celles de ses accusateurs. Ceux-ci défendent leur statut, leurs privilèges, leur autorité. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais à vouloir défendre son beefsteak. Mais à quel prix ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre nos intérêts ? Dans ce genre de bataille, les premières victimes sont souvent la vérité et la justice. Dans l'évangile de Jean que nous venons de lire, la motivation est ce qui différencie le bon, le vrai berger, du berger mercenaire, du mauvais berger. Le bon berger, nous dit Jésus, donne sa vie pour ses brebis. Évidemment, en période de Pâques, nous allons penser à la passion, la mort et la résurrection de Jésus, à son martyre, son sacrifice. Loin de moi la pensée de négliger ou de minimiser le coût de notre salut, mais j'aimerais mettre quelques petites remarques. D'abord, donner sa vie ne signifie pas forcément mourir, mais tout peut bien, tout aussi bien signifier consacrer sa vie à quelque chose ou à quelqu'un. Ensuite, le but du bon berger n'est pas de mourir pour ses brebis, mais de les protéger, de les faire prospérer, de leur permettre de mener leur vie. Ce qui m'amène à une troisième remarque, il ne faut jamais trop filer la métaphore, une parabole ou une parabole. Si la préoccupation de Dieu à notre égard est symbolisée, décrite comme celle d'un berger, ce ne doit pas nous identifier à des moutons, moutonnants et bêlants, prêts à nous faire tondre ou découper en côtelettes. Et enfin, dernière remarque, dans l'Église antique, le martyr n'a jamais été reconnu à ceux qui les recherchaient. Celui qui volontairement, de façon provocatrice, défiait les autorités persécutrices dans le seul but de montrer sa foi, n'était pas considéré comme un martyr, mais comme un fou et un idiot, mettant en péril la communauté. Toutes ces remarques pour vous faire comprendre pourquoi, à mes yeux, et j'insiste sur cette dimension subjective, à mes yeux, Jésus n'a jamais cherché à mourir. Simplement, le moment venu, lorsqu'il n'avait plus le choix qu'entre mourir et renoncer à ce qui le faisait vivre, il ne s'est pas défilé. Et selon l'usage latin, il n'a pas préféré la vie aux raisons de vivre. Je ne développerai pas ici la dimension sacrificielle et rédemptrice de la mort de Jésus. Non pas parce que ce n'est pas intéressant, non pas parce que je la nie, mais parce que ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui. J'aimerais d'ailleurs revenir à ce fameux sujet, la motivation. Jésus est l'homme qui a pu vivre pleinement qui il était en s'oubliant, ou pour reprendre les mots de la prière dite de saint François d'Assise, en s'oubliant, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve. Et même s'il nous arrive d'atteindre fugitivement des moments de grâce similaire, où nous arrivons à nous oublier, Jésus nous présente un modèle de pur désintéressement qui nous est impossible de suivre. Mais j'y reviendrai. En effet, Jésus n'a rien à gagner dans son ministère. J'entends rien à gagner pour lui-même. Or, j'aime à répéter que ce qui fait la valeur fondamentale de l'Évangile, ce n'est pas la sagesse qu'il contient, même s'il en contient beaucoup, mais que cette valeur vient de la personne qui l'annonce, de la cohérence de ce qui est prêché et de ce qui est vécu. Des gens avec des belles paroles, il y en a des pleins wagons. Mais des gens qui vivent l'amour qu'ils annoncent, le nombre en est fort réduit. Un jour, un collègue m'a raconté qu'il avait présidé à des obsèques d'une personne qu'il ne connaissait pas, un protestant comme ça, qui était un militant syndicaliste et qui n'avait dit à personne qu'il était protestant. donc au service funèbre, il a dit « J'ai ressenti l'hostilité de la salle ». Alors j'ai commencé comme ça. Camarade, oui, il faut ce qu'il faut. Hein. Camarade, connaissez-vous quelqu'un qui soit vraiment prêt à mourir pour le peuple ? Eh bien, moi, j'en connais un et je vais vous en parler. Bien sûr, c'est une provocation. Mais il faut reconnaître que la captation d'attention était bien trouvée. Le fait est que des gens prêts à mourir pour une cause, on peut en trouver. On en trouve aussi prêts à mourir pour leur pays, leur famille, leur parti. Mais pour le peuple, pour ces gens qui ne nous sont rien, qui nous sont même parfois ennemis, qui est prêt à mourir pour eux ? L'apôtre le Paul le dit très bien. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être que quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Mais n'oublions pas que si le Christ est mort pour nous, il a d'abord et avant tout vécu pour nous. Permettez-moi une deuxième anecdote qui est personnelle, celle-ci. J'avais été invité par une communauté musulmane à fêter la fin du Ramadan. Je m'étais retrouvé à la liste à la table des pontes, avec les délégués catholiques, le rabbin, le maire et autres représentants associatifs. Le rabbin était parti assez rapidement pour des raisons de cache-route, donc de pureté rituelle. Le maire aussi, pour des raisons que j'ignore. Et un imam présent a essayé de me convaincre de la supériorité de l'islam. Bon. Comme ces arguments ne fonctionnaient pas vraiment sur moi, il m'a dit « Mais vos paroissiens n'ont plus la foi. » Ah ! Je m'étonnais un peu d'une telle assertion, que je trouvais un peu péremptoire. Et il s'est expliqué. Il m'a dit « Mais est-ce qu'ils seraient prêts à tuer pour leur foi ?» Alors la consternation a été générale, y compris chez les musulmans, bien sûr. Alors il s'est rendu compte de l'énormité de son propos. Mais ce n'est pas ce qui est intéressant ici. Ce qui est intéressant, c'est la réaction de la plupart de mes collègues, toutes confessions confondues, lorsque je leur ai raconté l'anecdote. Ils m'ont dit « tu aurais dû lui dire que non, mais que nous étions prêts à mourir pour elle. » Sacre bleu, non. Non, non, et mille fois non. Par pitié, sortons de cette alternative grotesque entre tuer et mourir. Rien ni personne dans la foi chrétienne ne vous demande l'un ou l'autre. Ce qui vous est demandé, c'est de vivre pour et par votre foi. Vivre pour notre foi et non mourir pour elle. Tout au plus, sommes-nous invités à mourir un certain nombre de choses qui nous encombrent et nous dominent. Jalousie, violence, cupidité, besoin de reconnaissance. Mais le meilleur moyen de mourir à quelque chose, et c'est sans doute de vivre pour quelque chose. On peut vivre pour ou consacrer sa vie à, c'est un peu la même chose, à tout un tas de trucs. Et même s'il ne m'appartient pas de juger, on ne peut pas toutes les mettre dans le même plan. Quelqu'un qui consacre sa vie aux maquettes de bateaux ou à la collection d'opercules de yaourt est tout à fait respectable. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne traduction de l'appel de l'Évangile. Quel que soit l'objet de cette consécration, il est bon de s'interroger sur les motivations. Les motivations des autres, bien sûr. Ainsi, par exemple, mon conseiller bancaire, à qui est-il loyal ? À lui-même, surtout s'il touche une commission. À son employeur, à moi, son client. Sans doute un peu aux trois à la fois, mais dans quelle mesure ? Avant d'accepter la proposition de changer ma formule bancaire, je ne peux m'empêcher de me poser la question. Je prends ici un exemple, le cas de mon conseiller bancaire, qui est une jeune femme éminemment charmante, n'est pas remis en cause. C'est un exemple. Il y a des cas éminents de trahison. Ainsi, ces professeurs de civilisation gréco-latine à Princeton, université prestigieuse aux États-Unis, qui ont publié une tribune dans laquelle ils affirmaient souhaiter l'extinction de leur discipline sous prétexte qu'elle valorisait la domination de l'homme blanc. Ce n'est pas une bêtise telle qu'on en lit des tonnes sur Internet. Ce sont des sujets que les auteurs sont censés maîtriser. Mais dans une tentative désespérée de paraître à la mode, ils trahissent dans la plus grande mauvaise foi possible leur cause. Ils trahissent ce qui avait été confié à leur garde, parfaite illustration du berger mercenaire évoqué dans l'évangile de Jean. Je les remercie de me donner ainsi l'occasion d'illustrer mon propos et je vous invite à ne plus vous préoccuper d'eux. Ils ne récolteront que ce qu'ils méritent, la réputation d'opportuniste et d'imbécile. Trop de militants veulent se montrer, selon l'adage, plus royaliste que le roi, plus pur que la pureté elle-même, ce qui est évidemment du plus grand ridicule. S'il est relativement facile et pas simplement agréable de juger les motivations des autres, il est plus sérieux d'être honnête sur notre propre motivation, notamment dans nos engagements au service des autres. Que ces engagements contiennent comblent certains de nos besoins, sentiment d'être utile, l'occasion de sociabiliser, atténuement de notre sentiment de culpabilité, est inévitable et ne me semble pas poser de problème, tant que d'une part on en est conscient et que d'autre part ce n'en est pas le but, mais une grâce donnée en plus. La célèbre, mais hélas de nos jours trop peu pratiquée, introspection protestante prend ici tout son sens. Nous sommes invités à vivre pour les autres et nous-mêmes, pour Dieu et pour son royaume. Cela n'est pas un sacrifice. Au contraire, celui qui le fait reçoit une part de vie en plus, et pas seulement dans l'au-delà. Mais, me direz-vous, pour peu que vous ayez comme moi été obligé de lire le Balzac au lycée, et le père Goriot. Lui ne vivait que pour ses filles, progéniture imméritante et ingrate, ce qui peut nous rappeler quelqu'un que nous connaissons, nous-mêmes, le père Goriot est clairement une figure christique. Balzac lui faisant même dire « Quand je suis devenu père, j'ai compris Dieu ». Lecteur, nous voyons dans la destinée du vieux Goriot une déchéance et nous sommes révoltés par l'injustice de sa condition. Mais lui, je ne crois pas qu'il envisage ainsi sa condition. Je crois qu'il est heureux de faire ce qu'il fait. Je peux aussi évoquer la figure, je sais aujourd'hui contestée, de Mère Teresa, donc après le père Goriot, la mère. Connaissez-vous beaucoup de gens dont le visage irradiait autant que celui tout fripé, tout ridé de la religieuse? Je crois profondément la sincérité du bon mot qu'elle fit en réponse à une starlette hollywoodienne, lorsque celle-ci, un peu nunuche, lui avait dit « Ah, je ne ferai pas ce que vous faites pour $1 million ». Elle a fait « Moi non plus, je ne le ferai pas pour $1 million ». Elle le faisait pour beaucoup plus, un peu de vie en plus, en se débarrassant du souci, de ce moi encombrant. Ce supplément d'âme se reçoit non en s'humiliant, mais en vivant pour quelque chose de plus grand que soi. On ne peut pas se sauver soi-même, comme le disaient les moqueurs autour de la croix. On reçoit le salut. On le reçoit en vivant pour. Amen. Confie à Dieu ta route, cantique 4704, page 732. Confie à Dieu ta route. Place. L'apôtre a dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, offre ce qu'il aura pu épargner. Nous offrons maintenant nos dons pour le service de l'Église. Thank you. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous recevons, que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces et quelques nouvelles. Si monsieur le président du conseil, voilà. Ah non, trésorier.
Bonjour à toutes et à tous. D'abord, comme toujours, les remerciements donc à Vincent qui a bien entendu animé ce culte, à Claude Françoise à la musique et à Christine et Yvon Serge qui nous ont accueillis. Le prochain culte aura lieu le 28. Rappelez-vous qu'il y a l'Assemblée générale du CERA qui suit le culte. D'ici là, mardi, il n'y a pas de chorale. Mercredi, il y a la prière comme d'habitude. Ensuite, le 5 mai, ce sont les Jeux olympiques de la Bible et une journée avec le consistoire Savoie-Léman. Autre petite nouvelle, nous avons eu des nouvelles de Pierre et Monique Repentin et de Jean-Pierre Michaud qui tiennent à saluer toute la communauté, à se rappeler à leurs bons souvenirs. Et à la sortie, vous pouvez récupérer le journal Nouvelles auprès de Nicole.
Et je rappelle aux parents, parrains et marraines de venir signer les registres à la fin du culte. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Tu viens vers nous, Seigneur Jésus, tu viens vers les humains, les sœurs et tes sœurs et tes frères. Et nous, les baptisés, nous nous préparons à t'accueillir. Veille sur chacun de nous. Veuille prendre soin, Seigneur, de notre communauté. Qu'elle vive dans l'espérance, qu'elle annonce la paix, qu'elle annonce la vie, qu'elle témoigne de l'amour. Donne à ceux qui parmi nous ont reçu mission pour être des serviteurs de ta parole et de tes signes, de rester humbles et fidèles, de faire naître toujours neuf le langage de ta bonté. Fais de ton Église la maison du pardon, l'école de la réconciliation. Convertis-la sans cesse aux voies de ton royaume, dote-la de courage et de discernement. Veille sur les enfants d'Israël, Seigneur, garde et renouvelle ta tendresse à l'égard de ton peuple, afin qu'il demeure le témoin de ta fidélité jusqu'au jour de l'accomplissement. Enfin, Seigneur, donne raison à ton attente, et pour le jour où tu viendras, fais de ceux qui te confessent un peuple réparti sur toute la terre. Au nom de tes promesses, Seigneur, nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Nous terminerons après la bénédiction, donc, par la paix du Seigneur. Jésus est vivant, Dieu qui nous bénit, la ressuscité des morts. Vivez la joie de cet évangile et répandez partout cette nouvelle. Allez en paix. Amen.